Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril. Kid.
Il manie l'idée. La persuasion. Le silence. Informé. Cultivé. Rigoureux. Pour savoir et comprendre. Mario Dumont.
Bon après-midi, bonne fin d'après-midi, bienvenue à Cube. Journée, disons, animée sur le front des locataires. Tout le monde veut s'occuper des locataires. En fait, non, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a changé sa politique. Elle abandonne ce qu'elle avait promis en campagne électorale, une espèce de registre des locataires pour qu'on puisse voir, le registre des loyers, en fait, pour qu'on puisse voir combien coûtaient les loyers avant. Mais... celui qui fait ça, c'est Justin Trudeau, le gouvernement fédéral, Justin Trudeau, qui fait une annonce, appelle ça une charte des locataires, mais notamment veut imposer des nouvelles règles aux propriétaires, imposer des nouvelles règles de transparence sur l'ancien prix des loyers. Le problème, c'est que, comme la santé, dans la Constitution canadienne, le logement, c'est une juridiction des provinces, et c'est vraiment, j'avoue, là, c'est incroyable, c'est le festival des empiètements, le gouvernement fédéral, on n'est plus dans le fédéralisme, pas du tout, le gouvernement fédéral qui se mêle de tout, signifiant, on l'oublie, là, mais qu'on va embaucher d'autres fonctionnaires, qu'on va dédoubler encore pour du monde qui font la même job en double à Québec et à Ottawa, et donc Justin Trudeau qui se lance là-dedans, le gouvernement du Québec qui a très, très vivement réagi en disant, ben voyons, le logement, c'est une juridiction des provinces, une juridiction du Québec. Alors voilà donc qui vient lancer un nouveau débat. Le fédéral veut se lancer visiblement lui aussi dans ce qu'il appelle être la protection des locataires. On s'entend là, qu'électoralement, les locataires d'un bout à l'autre du Canada, à Vancouver, à Toronto, à Montréal, sont devenus des gens insatisfaits, des gens qu'on considère qui vont être attentifs électoralement à qui leur offre quoi. Ici au Québec, je veux dire, c'est vraiment Québec solidaire qui a gagné cette bataille des droits des locataires, qui martèle ces messages. Mais donc, autour de Justin Trudeau, de prendre de front le dossier des droits des locataires, avec la nuance que c'est pas une de ces juridictions en théorie dans la Constitution canadienne.
Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont, de la musique aux oreilles.
C'est comme la dernière étape d'une espèce de réforme du droit qui tourne autour de la famille, celle qui touche vraiment les enfants dans des unions de fait, face à des conjoints qui ne sont pas mariés. Ce qui était, si on remontait quelques décennies en arrière au Québec, des cas d'exception qui étaient gérés comme tels. La grande majorité des enfants naissaient dans des couples mariés. Pas tout à fait en 2024. Là. Maintenant, c'est une minorité d'enfants qui naissent dans des couples mariés. La plupart des enfants naissent hors mariage, donc dans des couples en union libre. Et donc là, il s'agissait, comme l'avait dit le gouvernement, on veut pas marier de force des gens qui veulent pas se marier, des gens qui sont en union libre. Mais pour le bien de l'enfant, il faut créer une sorte d'union autour de l'enfant, là, qui protège le bien-être de l'enfant. C'est ce qu'a déposé, ou c'est ce qu'a voulu en tout cas déposer ce matin, le ministre de la Justice du Québec, Simon-Jolin Barrette. On va en parler avec Valérie Costanzo, professeure au département des sciences juridiques de l'UQAM, spécialiste en droit de la famille. Bonjour.
Bonjour, merci de l'invitation.
Qu'est-ce que vous pensez de cette création, de ce nouveau concept de l'union parentale?
Alors, qu'est-ce que j'en pense? Je pense qu'il y a ici, enfin, un geste clair qui est posé à l'égard des personnes qui sont en union de fait, particulièrement pour des personnes qui ont des enfants. On pourrait considérer le geste courageux, considérant que ça fait 10 ans qu'il y a cette attente depuis le fameux jugement prénommé par les médias, Éric contre Lola.
Ouais.
Où est-ce qu'il y a des pressions qui sont faites sur les différents gouvernements qui se sont succédés, des promesses qui ont été effectuées. Et enfin, une proposition qui est sur la table là, du gouvernement aujourd'hui.
Ouais. Oui, parce qu'il y avait eu un grand rapport après de M. Roy, le professeur Roy. Donc, il y avait vraiment tout un travail qui avait été fait et c'est resté un peu tabletté. Et ça signifie quoi si vous essayez de nous simplifier ça, là, pour des couples qui nous écoutent, qui vivent comme ça, en union libre avec un enfant? Qu'est-ce que ça change? Comment on décrirait le avant et le après?
Alors, je vais commencer par dire que la loi qui est proposée, le projet de loi, exclut les personnes qui aujourd'hui sont en union de fait et ont des enfants, commencerait à être appliquée à partir de juin 2025. Pour les futurs enfants et les futurs parents. Pour les personnes qui sont aujourd'hui en union de fait avec des enfants, seraient exclues de l'application de la loi. Peut-être que ça vaut la peine d'avoir une discussion et puis s'y soumettre éventuellement, mais ça reste sur la volonté des personnes d'adhérer à cette manière de voir leur union et leur famille avec des enfants.
OK, donc, excusez-moi, je vous arrête. Donc, oui. Les personnes qui sont actuellement avec des enfants en union libre pourraient s'y soumettre, mais devraient faire une démarche volontaire pour dire on veut être inclus dans cette nouvelle union parentale. Ils n'y seraient pas automatiquement.
Au même titre que le mariage, on demande aux gens de se souscrire à un régime. Le mariage, c'est un régime qui est déjà entièrement encadré ou presque. On crée un nouveau régime avec l'union parentale. C'est autre chose. Les personnes qui sont en union de fait encore aujourd'hui pourraient choisir d'y adhérer, mais ça reste, c'est pas encadré en soi par le législateur. Ça reste un choix qui sera à faire. Voilà.
OK. Mais donc, à partir du moment où ça va être obligatoire pour tout le monde, on dit que ça change certains éléments au moment du décès, au niveau de la propriété de la maison familiale. Expliquez-nous ce que ça vient changer pour le couple et l'enfant.
Alors, effectivement, on s'inspire du cadre qui existe pour le mariage. On s'inspire notamment de la vocation successorale. Je pense que c'est un élément super important de le nommer ici. Donc, si jamais un des conjoints décède sans testament, à ce moment-là, son coparent pourra hériter d'une partie des sommes laissées en héritage, chose qui n'était pas possible avant et chose qui ne sera pas possible pour les personnes en union de fait qui ne sont pas parents d'un même enfant. Alors, pour les personnes qui sont parents d'un même enfant, la vocation successorale...
Je l'ai déjà entendu dans des cas précis, ça laissait des cas où le parent laisse de l'argent à ses enfants qui sont mineurs, qui n'ont pas le droit d'y toucher. Mais, exemple, le père décède, c'est lui qui avait les plus gros revenus, laisse une entreprise, des montants d'argent, c'est placé comme dans un fonds, une fiducie pour les enfants pour quand ils seront adultes. Mais dans le concret, la mère, pour les élever, n'a pas tant d'argent que ça, là, ou peu.
Exactement. Donc, ça vient répondre à cette situation qui était jusqu'ici laissée pour compte. Je vais préciser aussi quelque chose. Vous indiquez là un régime qui est obligatoire. On prévoit dans la loi la possibilité de se sortir de ce régime-là. Donc, les personnes qui, à partir de 2025, sont en union de fait et ont des enfants pourraient choisir, par convention notariée, ceci dit, de ne pas se soumettre aux règles qui sont prévues et au mécanisme juridique qui est prévu pour l'union parentale. Okay. Donc, ce serait possible de s'en sortir, contrairement au mariage qui est imposé avec plusieurs mécanismes qui sont imposés. Regardons maintenant plus spécifiquement quelles sont les mesures qui sont proposées. Alors, on parle de patrimoine familial. Enfin, ici, ce serait un patrimoine d'union parentale, excusez-moi, qui est inspiré du patrimoine familial. On parle de protection de la résidence familiale, vous l'avez déjà dit. On parle également, au moment de la rupture, d'un partage de certains biens dans le patrimoine d'union parentale. Ça n'inclut pas tout ce qui était présent et qui est encore présent dans le mécanisme juridique du mariage. Ça exclut les résidences secondaires. Ça exclut également les régimes de retraite. Alors, on s'inspire du code juridique du mariage, mais on fait quelque chose qui est à la pièce pour des unions parentales.
Mais c'est comme si on nous prévoit... dans l'explication, on nous dit que c'est comme si on le ramène plus à ce qui est autour de l'enfant. Comme la résidence familiale, ben c'est la résidence où vit l'enfant, alors que le fonds de retraite du conjoint, il y a peut-être moins rapport, ou la résidence secondaire. Ça vous paraît équilibré, cette idée de dire c'est des gens qui n'ont pas voulu se marier, mais ils ont un enfant en commun, donc ce qui tourne autour de l'intérêt de l'enfant, on le force un peu dans un patrimoine commun, c'est ça la logique?
En principe, oui. Après ça, on pourrait se poser d'autres questions. Les résidences secondaires, c'est des résidences qui servent également à la famille. Alors, pourquoi les exclure alors que les enfants y ont accès? Ça fait partie du niveau de vie d'une famille. La question se pose. Okay. Également, pour les régimes de retraite, s'il y a des conjoints-conjointes qui, pendant l'union, doivent prendre un congé de maternité, de parenté, on va cotiser dans ces régimes-là, puis il y a un esprit de solidarité qui est moins présent dans ce qui est proposé par le gouvernement. On a plutôt un régime qui est compensatoire. On parle des conséquences au moment de la séparation, si séparation il y a, qui viendrait rétablir des déséquilibres qui seraient pendant l'union avec des enfants. Mais moi, je me pose des questions sur pourquoi est-ce qu'on exclut les résidences secondaires et les régimes de retraite.
OK. OK. On nous parle de mesures contre la violence judiciaire là, dans le résumé que fait le ministre Jolin Barrette de son projet de loi. Qu'est-ce qu'on appelle la violence judiciaire?
Ça s'inscrit dans un esprit où est-ce qu'il y a des personnes qui vont faire ce qu'on appelle autrement des abus de procédure, vont insister, vont multiplier les recours judiciaires dans un esprit de harcèlement, dans un esprit d'insistance pour constamment avoir possiblement un contrôle sur le coparent, le conjoint, la conjointe. Puis là, on vient encadrer explicitement les dispositions relatives à la violence judiciaire, plutôt, qui permettraient, disons, un effet répressif d'une propension à des procédures judiciaires.
Mmh. Est-ce que, je veux dire, pour vous, là, vous lisez ça aujourd'hui, est-ce que pour vous, il y a un progrès indéniable sur le bien des enfants, sur les droits des enfants?
Il y a certainement un progrès pour le bien des enfants, c'est sans contestation aucune. On pourrait quand même se poser des questions à savoir pourquoi exclure le reste des personnes qui sont en union de fait. Vous aviez dit tout à l'heure, bon, il y a cette idée que tout le monde qui est en union de fait en fait le choix délibéré. Si on revient à cette fameuse cause d'Éric contre Lola, c'est vrai qu'il y avait des enfants dans cette circonstance-là, mais en fait, la preuve avait démontré que Lola désirait se marier. C'était Éric qui refusait de le faire. Alors, c'est de l'autonomie, de la volonté de qui est-ce qu'on veut protéger? Certainement, dans une perspective pour le droit des enfants, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus en mesure d'encadrer les ruptures et de favoriser l'intérêt d'enfant. Je dirais qu'ici, on a à la fois un progrès considérable, puis un progrès qui est prudent. Je qualifierais quand même de prudent, à savoir, ça fait l'objet d'une certaine controverse, hein, les unions de fait, comment est-ce que protéger possiblement des inégalités dans les couples, particulièrement dans les couples qui sont hétérosexuels. Mais il y a un consensus social qui se dégage lorsqu'il est question des enfants. Alors, on évite une certaine patate chaude, pour le dire ainsi, ouais, pour des unions de fait qui n'ont pas d'enfants. On les laisse encore à eux et elles. Puis s'il y a une personne qui veut se marier et l'autre non, tant pis, ce sera l'autonomie de l'une personne sur l'autre. Mais pour les enfants, on va créer un cadre qui, socialement, serait probablement accepté.
Valérie Costanzo, professeure en sciences juridiques à l'UQAM. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir.
Merci à vous.
La fin du monde approche.
Mario Dumont.
Mais au-delà de ça, Mario, c'est le retour du schtroumpf grognon. Là.
Marie, mon petit.
Il était pas de bonne humeur, puis ça allait pas comme il voulait.
La rencontre, mon petit Dumont.
Marie, la coalition Avenir Québec avait promis de réduire la taille de l'État avec évidemment le déficit de 11 milliards. C'est une promesse qui revient les hanter.
Oui, ben écoute, c'était même un message fort. Quand j'ai vu ça ce matin, écoute, je te remets en contexte. Moi, j'étais au gouvernement quand François Legault disait ça, quand il était dans l'opposition, puis il s'est gâté là pour dire ça en 2016, en 2017, pendant la campagne électorale de 2018. Puis c'était comme un espèce de tu sais, c'est genre de message facile quand t'es dans l'opposition, de dire « Ah, je vais couper des fonctionnaires, je vais sabrer dans l'État, dans la fonction publique, c'est des gras de papier, il y a plein de monde qui font rien là-dedans. » Tu sais, c'est genre de promesses un peu faciles qui plaît à l'esprit. Je vais couper des structures aussi. Puis tu sais, finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que François Legault, il a eu le test de la réalité quand il est arrivé au gouvernement, puis il s'est rendu compte que c'était peut-être pas si facile que ça, couper du monde, tu sais. Puis moi, j'étais ministre à l'époque, puis je trouvais ça tellement, tellement simple. Puis je te fais une confidence, Mario, parce que ça m'a rappelé ça aujourd'hui. J'ai commencé ma carrière politique quand j'avais 11 ans. J'étais en sixième année, puis je m'étais présentée à la présidente de mon école primaire. Puis, à l'époque, j'avais promis, tu sais, c'était à l'époque, on doit être en 91 à peu près, il y a encore des petits berlingots de lait. Puis, une des affaires, que, bon, il y a plein de monde dans ma classe qui n'aime pas ça, les petits berlingots de lait. Puis, j'avais eu une fabuleuse idée de promettre des berlingots de lait en chocolat. Puis, je trouvais que, tu sais, du lait au chocolat, je me disais, tu sais, tant qu'à avoir des berlingots de lait, ils ont du lait au chocolat, je trouvais que c'était bien.
Électoralement, pour se faire élire, c'est du solide, là.
Je suis pas sur moi que dans mon discours final dans ma classe de l'école primaire de Sainte-Marthe. Ça a été très populaire et j'ai eu une ovation debout. Et je me
t'as
suis
gagné
fait...
des élections, bon.
Ouais, mais j'avais pas validé vraiment la possibilité. Moi, j'y croyais, là. J'y croyais vraiment, tu sais, mais j'avais pas, tu sais, c'était pas de la bullshit. C'est, je pensais vraiment qu'on pouvait faire ça. Puis une fois que je suis allée visiter, tu sais, valider cette option-là avec le directeur de l'école et la commission scolaire, je crois que j'étais quand même assez, allée assez loin dans ces démarches-là à l'époque. Puis on m'avait comme dit que ça se pouvait pas, tu sais, que je livrerais pas la marchandise sur ce dossier-là. Mais ça me donne tout le temps cette impression-là, tu sais, quand j'entends...
C'est pas vrai que
t'as
commencé ta carrière avec une promesse non remplie.
Ouais, je sais, mais c'était pas un mensonge. Oh, juste ben vraiment, là. Vraiment, j'y croyais, là. Puis, tu sais, je suis en sixième année. Si j'avais eu un peu plus de temps, je pense que j'aurais peut-être pu la concrétiser. Oh, j'avais fait beaucoup de volonté à l'époque. Mais on m'avait dit que non, ça se faisait pas. Puis, ouais, j'ai commencé avec un engagement brisé. Mais j'en avais d'autres, Mario. Puis, j'ai fait le reste de la liste. Mais ça m'a toujours, je dois te dire quand même que ça m'a toujours porté dans ma carrière de politicienne sur des fois entre ce que tu veux faire, ce que tu promets, c'est peut-être mieux d'aller vérifier au préalable avant de réfléchir à voix haute, puis avant de promettre des engagements, il faut que tu les vérifies. Puis tu vois, quand j'entendais François Legault à l'époque avec des espèces de généralités sur les fonctionnaires, il y en a trop, il y a du monde qui
ouais,
sert
mais là,
à rien.
Écoute, réduire, c'était pas beaucoup. Là,
je parlais...
ouais, je comprends, mais il parlait de réduire de 5 000 et c'était comme... tu sais, dans la fonction publique, c'était même pas 5%. Ben, ça dépend de ce que tu comptes, là. Ça me paraissait pas énorme, là. Ça me paraissait bien modeste, mais en fait, le problème aujourd'hui, c'est pas juste qu'il a pas rempli l'engagement, c'est qu'il y en a plus. C'est pas juste qu'il y en a pas. C'est pas juste le fait qu'il a pas réussi à réduire, mais il y a plus de fonctionnaires qu'il y en avait.
Ben, il y en a plus parce qu'il y a un vieillissement de la population, parce qu'il veut offrir plus de services, parce que, mais tu sais, c'est pour ça que j'en reviens au fait que c'est comme une promesse, tu sais, va valider tes affaires. Ça faisait juste trop simple. C'est très... Puis, tu sais, j'entends Éric Duhaime qui est dans ces discours-là. C'est des discours de droite. Tu sais, c'est facile, Mario, là, de dire aux gens, là,
ben,
il va
facile,
avoir moins de structures, il va avoir moins de gens, on va payer moins d'impôts. Tu sais, c'est,
ben oui.
C'est des espèces de promesses.
Mais l'État grossit.
On a envie d'y croire.
Ben non, mais l'État grossit. Les partis promettent jamais ça, puis ils embauchent toujours plus de fonctionnaires, puis l'État grossit, puis le monde paye. Là. Ben, à un moment donné, tu te dis, est-ce qu'on en a vraiment pour notre argent? C'est une vraie question que les gens se posent. Donc, il faut, au moins une fois par génération, il faut qu'il y ait un gouvernement qui passe, puis qui passe le râteau là-dedans un peu pour dire, ben regarde, tel organisme, ça fait 25 ans qu'on a créé ça. À l'époque, il y avait un besoin, il n'y a plus de besoin, coupe-moi ça. Et c'est un exercice qu'il faut qu'il se refasse, là, t'sais, de temps en temps, de repasser dans les... Puis je comprends qu'il faut avoir le courage de le faire. Puis là, la CAQ, la réponse, ben là, on a été pognés dans la pandémie. Puis là, finalement, dans la pandémie, il a fallu embaucher du monde. Finalement, bon, on comprend que ça se fera...
Mais en même temps, il y a l'excuse des services, tu sais. Puis moi, tu sais, j'entendais Sonia Lebel aujourd'hui qui disait, ben écoutez, dans le fond, on a enlevé de l'administratif. Donc, ce qu'on peut appeler, là, François Legault, je pense qu'il appelait ça des gratte-papiers. Ouais. C'est du monde dans des bureaux là qui remplissent des formulaires. Elle dit, on a plus de gens au service. Mais c'est vrai qu'à partir du moment... Ou, tu sais, c'est un peu utopique de penser que ta population grossit, ta population vieillit, ta population consomme plus de services. C'est un peu utopique de penser que tu vas avoir moins de gens pour délivrer ce genre ouais. de service-là. Donc, là, c'est un peu l'excuse qu'ils donnent à valider, voir si c'est vraiment ça la mathématique. Mais si c'est ça, ça tient quand même la route. Mmh.
Il y a hier plan d'action qui a été annoncé par la ministre Sonia Bélanger, mais dans le fond, ça repose pas tellement sur elle autant que sur une espèce de consensus là, de tous les partis à l'Assemblée nationale pour un grand plan d'action sur l'Alzheimer.
Ouais, super initiative. Tu sais, je veux souligner, Mario, parce qu'on parle souvent du mauvais coup du jour ou tu sais, justement des mauvais coups des partis politiques, puis des gaffes qui sont faites, puis du non-respect des engagements électoraux. Mais ça, je trouve honnêtement, excellente initiative. Puis Sonia Bélanger, c'est pas une ministre dont on parle beaucoup, mais c'est une ministre qui, quand elle était dans le réseau de la santé, tu sais, était PDG du CIUS de l'Ouest, tu sais, du Sud-Ouest, pardon. Puis c'est entre autres un CIUS qui faisait beaucoup beaucoup dans les soins à domicile. Je pense qu'elle peut apporter quelque chose, mais je trouve ça hyper intéressant que ce soit une approche transpartisane qui se fait un peu comme ça a été pour le cas pour l'aide médicale à mourir. Puis on en parle trop peu souvent de la maladie d'Alzheimer. Je pense qu'on réalise pas suffisamment à quel point il y a une forme d'épidémie qui nous pend au bout du nez comme société.
Les chiffres qui accompagnaient leur lancement, là, en 2008, il y avait 100 000 cas d'Alzheimer au Québec. Puis 22 ans plus tard, en 2030, il va en avoir 200 000. Puis ça continue à augmenter à ce rythme-là. Là. Ça va avoir doublé en 22 ans. C'est pas long là, dans l'histoire, là, 22 ans. Et tu dis, puis écoute, ça, moi, je racontais ça ce matin à LCN. Moi, quand j'ai été élu député en 1994, ça fait longtemps, mais pas tant que ça va faire 30 ans bientôt, Marie, on visitait les CHSLD en période électorale, là. Pour vrai, là. Parce que les gens, on jasait avec eux, puis on jasait de politique, pour y voter pour moi, puis on leur laissait un dépliant. Aujourd'hui, oublie ça, là. Il y a des gens dans un CHSLD, il y en a peut-être quelques-uns qui votent, une petite minorité, des fois des jeunes handicapés, mais la grande majorité, la norme maintenant dans les CHSLD, c'est des gens en perte d'autonomie complète, incluant en perte de leur faculté, l'Alzheimer ou d'autres troubles neurologiques. Mais, tu sais, on dirait que quand moi, je repense à ça, tu sais qu'il y a 30 ans, moi, j'allais dans un CHSLD puis je jasais avec le monde, là. Maintenant, là, tu vas dans un CHSLD, on les fait manger à cuillère, ils ont les yeux vides, tu sais, mais c'est des grands nombres de personnes, là, qui vivent,
terminent leur vie. Ton exemple est tellement bon, Mario. Tu sais, quand il y a eu tous les débats là, sur les bains dans les CHSLD, entre autres, là, moi, je me suis retrouvée, là, j'ai fait une tournée des CHSLD, puis c'est drôle que tu parles de ça, parce que l'exemple que tu donnes, hein, moi, je faisais déjà de la politique aussi à l'époque, je me rappelle effectivement que les CHSLD étaient visités, puis moi, en 2003, je travaillais dans le réseau de la santé, je travaillais justement, je faisais de la recherche dans les CHSLD, puis c'est un peu l'exemple que je donnais, tu sais, 20 ans plus tard, je disais, en 2003, début des années 2000, là, le cas classique qu'on retrouvait en CHSLD, c'était le mari, c'était le monsieur, 80 ans, sa femme était décédée, il était pas trop capable de se faire deux toasts, tu sais. Donc, il se retrouvait un peu mal pris, il se retrouvait en centre hospitalier de longue durée, hein, c'est ça, un CHSLD. Il conduisait sa voiture, il allait faire ses, tu sais, il était autonome, c'était vraiment, tu sais, c'était semi-autonome, c'est juste souvent, il n'arrivait pas à se faire à manger.
Maintenant, ouais, mais des fois, c'était pas mauvais d'avoir quelqu'un pour surveiller ses médicaments, tu sais, on disait aussi ça, il avait besoin d'un petit peu d'aide, ses pilules,
un petit peu d'encadrement.
Mais là, on n'est plus là-dedans
c'est
du tout.
Là, on n'est plus dans des soins, tu sais, même le soin de longue durée, ça n'a plus aucun rapport. Tu as plus de 70 % des gens qui sont en CHSLD, qui ont des troubles neurocognitifs de tout genre, Alzheimer, maladie de Parkinson, tu sais, vraiment de tout genre. La durée moyenne, pour te donner une idée, des gens qui arrivent en CHSLD, c'est 18 mois. C'est ça la moyenne. C'est vraiment la dernière étape. On est presque dans du soin, tu sais, palliatif étiré, mais c'est des gens qui n'ont plus aucune autonomie. Les gens qui mettent leurs proches en CHSLD, on sait que c'est la dernière étape parce qu'ils sont plus capables de s'en occuper, parce que ça demande trop de soins. Mais je voulais souligner cette initiative-là, en fait, des parlementaires, parce que, justement, c'est un enjeu qui nous pend au bout du nez. Et il faut parler toute la question, entre autres, pas seulement la personne qui a la maladie. Il y en aura de plus en plus et ça va s'accélérer parce qu'on est dans un contexte où le vieillissement de la population s'accélère aussi. Mais c'est toute la question des proches aidants. C'est les gens qui sont autour. Et ça, on a encore beaucoup de chemin à faire parce que dans certaines situations, les proches aidants, les aidants, tu sais, un aidant naturel va être aidé par le gouvernement. Un proche aidant le sera pas nécessairement au niveau des crédits d'impôt, tout ça. Tu sais, il y a encore beaucoup de réflexions à faire là-dessus parce que des gens qui vont consacrer 10, 20, 30 heures par semaine pour aider leurs proches. Puis à un moment donné, avec le nombre de gens qui vont avoir des maladies neurodégénératives, on peut pas compter sur les maisons des aînés ou les CHSLD pour accueillir tous ces gens-là.
La moyenne, ce matin, je voyais un rapport, là, la moyenne des aidants naturels, ça peut être le conjoint, un enfant, là, mais pour une personne qui est dans ce genre de grande perte d'autonomie, moyenne 26 heures par semaine. C'est ce qui est occupé d'un proche devient un job ni plus ni moins qu'à temps plein. Merci beaucoup, Marie.
Merci, Mario.
Au revoir.
Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes.
Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario.
Bonjour.
Bon, des annonces en veux-tu en v'là aujourd'hui, à commencer ici à Québec, alors qu'on a eu le fameux projet de loi 56 là, qui a été présenté par le ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette, qui sera d'ailleurs un peu plus tard avec nous à cette émission. Mais en attendant, c'est une réforme qui était assez attendue, Mario, qui est la suite un peu de ce qui a été amorcé dans le premier mandat de la Coalition Avenir Québec.
Ouais, mais c'est la suite de ça, mais c'est la suite, ça fait 10 ans au Québec que ça traîne, il y avait eu le rapport de l'avocat du professeur de droit, M. Roy, ça a traîné essentiellement, on disait que chez les libéraux de Philippe Couillard, ça divisait, je pense, le caucus, le conseil des ministres, on avait failli avancer avec ça, on avait reculé, parce que c'est un sujet délicat. C'est toute la question. Est-ce que tu as l'air de marier de force des gens qui sont en union libre? Puis là, quand on dit les mariés, c'est qu'est-ce que tu mets en commun?
Oui.
Et la fine ligne à tracer, c'est la protection des enfants. Donc, ce que le ministre Jolin Barrette essaie de faire, c'est de dire, moi, je crée une union parentale, un nouveau statut. Tu as le mariage, mais là, tu as l'union parentale, qui, à partir de 2025, va devenir automatique pour les couples en union libre qui vont avoir un enfant. Donc, si tu es en union libre, pas d'enfant, chacun s'arrange avec ses affaires. Mais dès qu'il y a un enfant, c'est comme là, vous avez un tiret, là, un point commun au couple. Puis là, autour de l'enfant se bâtit naturellement, à partir du jour 1, une espèce de patrimoine d'union parentale dans lequel il y a la maison.
Oui.
C'est la maison où l'enfant est élevé. Un certain nombre de biens, etc. Donc, c'est... Puis là, en cas de séparation ou en cas de décès d'un des conjoints, bien, il y a des règles qui changent pour protéger le patrimoine autour de l'enfant. Là.
Voilà. Fait que maison, tu l'as dit, des meubles dans résidence, l'auto aussi, tout ça, ça vient rentrer dans ce qu'on appelle le patrimoine familial.
Mais il y a des gens qui veulent rien savoir de ça. Il y a des gens qui disent, le gouvernement essaie de nous marier de force. Là. Nous autres, on a voulu vivre en union libre. Puis, dans certains cas, parce que t'as deux conjoints qui sont deux super professionnels, puis les deux ont une méga carrière, puis chacun leur compagnie, puis des gros jobs, puis ils sont consentants à dire, regarde, on fait chacun nos affaires. Dans d'autres cas, c'est parce qu'il y a un des deux conjoints qui a beaucoup d'avoir, beaucoup de biens, beaucoup de succès économique, puis des fois, l'autre s'occupe plus des enfants, puis la carrière est plus secondaire ou n'a pas la même chance.
Puis lorsqu'il y a une séparation...
C'est ça. Comment tu protèges... Tu veux pas nécessairement, tu dis, OK, ils sont en union libre, t'es en union libre, mais l'enfant, lui, il est l'enfant du couple. Alors, comment il va vivre la séparation? Et c'est tout ça, là.
Oui, vraiment. On veut protéger d'une certaine manière, dans le fond, le parent qui pourrait se retrouver comme ça dans une situation économique moins avantageuse, mais qui serait avantageuse pour l'enfant, là. On se comprend, c'est vraiment ça qui est au cœur de tout ça.
Mais c'est pas simple quand même, parce que je veux dire, l'argent, la maison, c'est oui, tu le fais pour l'enfant, mais ça agit sur les deux conjoints aussi. J'ai hâte de voir ce que vont être les réactions. Il va y avoir une large consultation là-dessus. Est-ce qu'il y aura beaucoup d'opposants qui vont y aller publiquement? Ça va être intéressant à suivre.
Oui, parce qu'il y a quand même une différence avec le mariage classique, Mario. Là, on n'est pas du tout dans la même chose. Là. Oui, il y a un partage de biens qui peut s'effectuer, mais là, quand on parle des autres biens, là, les réels, la pension, tout ce qui est pension alimentaire, là, on est dans le mariage, Mario. Là. C'est vraiment là-dedans qu'on embarque.
Alors que dans l'union parentale, exemple, les régimes de pension réels des conjoints, c'est pas mis en commun, c'est pas dans le patrimoine commun.
Pas du tout,
résidence chalet, résidence secondaire non plus.
Non plus. Donc, c'est comme une question, puis c'est ce qu'expliquait M. Jean Barrette, d'un peu de choisir ton programme de protection, je le mets en gros guillemets, là, mais quel genre d'union, quel genre d'association de biens tu veux créer au sein de ton union, puis de l'union familiale en question, ce sera modulable, si on veut, de ces deux côtés-là. Donc, ce sera à voir pour tout ça. Puis, ça faisait longtemps que c'était dans le carton, Mario. Ça fait depuis quand même les années Marois, gouvernement Marois, qui avait essayé aussi là, de statuer là-dessus, tabletté sous Couillard, de retour avec la Coalition Avenir Québec.
Laissé sur les tablettes pendant tout le premier mandat de la CAQ. Donc, plusieurs aujourd'hui disent qu'il y a quelque chose de courageux là, dans le geste de Simon-Jolin Barrette.
Tout savoir en 24 minutes.
Et pendant ce temps-là, on a eu droit à deux annonces distinctes qui viennent aider les locataires, Mario. Du moins, qui ont la volonté de venir aider les locataires en pleine crise du logement. Et c'est du côté du fédéral et du côté du municipal ici à Montréal qu'on a agi. Commençons tout de suite avec Ottawa parce qu'on a eu cette annonce là, un peu plus tôt du gouvernement Trudeau qui était sur place à Vancouver avec la ministre Chrystia Freeland, ministre des Finances, parce que le budget s'en vient, Mario, hein, c'est très bientôt, 3 semaines avant le dépôt du budget fédéral.
Juste une parenthèse là-dessus, c'est quand même une première à ma connaissance, je reste qu'on me le dise s'il y a déjà eu des cas. D'habitude, on dépose le budget, puis là, dans les 2-3 semaines qui suivent, tu sais, tu vas faire, mettons, une série d'annonces là, sur le... Tu sais, donner les détails, puis donner le peu le tout le fonctionnement des mesures. Tu sais, le budget, c'est général. Puis là, tu donnes les détails après, là, tu sais, sur les différents sujets du budget.
Ouais.
Mais là, ce que M. Trudeau a annoncé aujourd'hui, il nous a dit, je vous annonce ça qui va être dans le budget. Puis dans les prochains jours, donc avant le budget, pré-budget, il dit qu'il va faire une série d'autres annonces. Comme si quand le budget va être déposé, probablement ça va être gardé du nouveau aussi, mais il va y avoir plusieurs des éléments du budget qui vont avoir été annoncés dans les deux semaines précédentes.
Fait que c'est une campagne d'effeuillage
Défeuillage pré-budgétaire. J'ai jamais vu ça, sincèrement. Là. C'est la première fois que je vois ça orchestré de cette façon-là.
Ouais.
C'est pas après le budget qu'on en donne les détails, mais c'est avant.
Il y a peut-être quelque chose d'intéressant à analyser là. Est-ce qu'on veut essayer de renverser la vapeur du côté du gouvernement Trudeau?
Peut-être. Ou l'autre hypothèse, ce matin à LCN, Emmanuel Latraverse disait ben, peut-être qu'on se dit que le déficit, comme à Québec, là, le déficit va être tellement gros qu'une fois le budget sorti, ça va être ça la nouvelle.
Avant ça, on veut montrer, ben regarder toutes ces mesures.
On passe les bonnes nouvelles avant, parce qu'on se dit qu'une fois qu'on va avoir vu le budget, ça va être le déficit qui va occuper tout l'espace.
Mais là, le problème, c'est qu'en annonçant ça, Mario, ça n'a pas fait que des heureux. Puis ça, c'est quoi? Je n'ai même pas expliqué encore. On parle de créer une charte des droits des locataires, mais au niveau fédéral, qui forcerait les propriétaires à avoir un historique clair, à le rendre public, des loyers d'un appartement. En gros, ben un peu une espèce de registre des loyers, Mario. Là. C'est
donc
pas comme
combien,
ça qu'on le présente.
Combien tu le louais dans les années précédentes?
Oui, exactement, pour qu'on ait un levier de négociation supplémentaire lorsqu'on est locataire, qu'on rentre dans tout ça pour permettre de sévir contre les rénovictions aussi, plus de pouvoir, en clair, aux locataires. Le problème, c'est que, ben ce faisant, vient mettre les pattes directement, Mario, dans les compétences des provinces, là, on s'entend.
Totalement. Le logement, ben au même titre que la santé, le logement dans la Constitution canadienne, c'est dans les pouvoirs des provinces. Tout simplement, point à la ligne.
Et là, on a déjà eu des réactions assez fortes. Merci déjà à Québec. Mario, là, Jean-François Roberge, qui est le ministre responsable des relations canadiennes, lui a dit un non clair et précis en disant qu'on ne laisserait pas le fédéral venir intervenir. La ministre France-Hélène Duranceau du logement a dit que c'était hors de question qu'il y ait une charte fédérale qui vienne interférer dans les pouvoirs du Québec en termes de logement. Donc, ça sonne beau, là, Mario, tout ça, mais dans le fond, là, le Québec réagit fort. On comprend pourquoi avec l'historique. Est-ce que toutes les provinces vont finir par dire ben non merci puis ça va tomber à l'eau?
Je sais pas, mais je voyais le constitutionnaliste Patrick Taillon de l'Université de Laval semblait dire tout à l'heure sur les réseaux sociaux que sur celle-là, le Québec avait des arguments particulièrement forts pour contester. Alors ce sera à voir, mais c'est toujours la même chose. Le fédéral, tu sais, crée un nouveau programme d'assurance médicaments, crée un nouveau programme d'assurance dentaire, crée un nouveau registre pour les locataires. Toujours en disant, moi, là, je m'occupe du monde, puis tu sais, je fais des programmes pour aider le monde.
Mais c'est pas la job du fédéral.
Mais c'est pas la job du fédéral, un. Puis le fédéral, par ailleurs, fait pas sa job. Parce que, par exemple, en matière de logement, il y a des choses que le fédéral pourrait faire, puis il les fait pas. D'ailleurs, c'est ce que Pierre Poilievre reproche, là, continuellement à Justin Trudeau. Mais disons que celle-là, c'est parce que c'est comme une accumulation là, de j'ai pas souvenir que sur une seule année, là, mettons 2023-2024, là, sur 12 mois, mettons, là, depuis l'assurance, mettons, dentaire jusqu'à aujourd'hui, en passant par l'assurance médicaments, j'ai pas souvenir d'une telle rafale d'ingérence forte et claire du fédéral dans les pouvoirs des provinces. C'est vraiment, vraiment à vitesse grand V que le fédéral rentre dans les juridictions. Et probablement que Justin Trudeau fait la balance des inconvénients. Il se dit qu'il y a moins de gens dans les provinces qui vont être sensibles à ça, que là, tu sais, il essaye d'aller chercher une clientèle électorale très sociale, peut-être l'enlever au NPD, pour essayer de se remonter électoralement. Là.
Au-delà du social, Mario, on se comprend que des locataires, il y en a, puis il y en a beaucoup, puis il y en a beaucoup qui arrachent.
Puis ils sont frustrés ces années-ci.
Non, on comprend.
Mais est-ce que la solution au problème des locataires, c'est un registre, ou est-ce que c'est de construire plus de logements? Ça, c'est la grande question.
Du côté de Québec, en tout cas, qu'est-ce qu'on répond, Mario? Ben, le fédéral a les pouvoirs sur quoi? Les frontières, puis en laissant entrer autant de demandeurs d'asile, mais ça met de la pression sur le système de locatif et le système, évidemment,
Valérie
d'habitation.
Valérie Plante, elle avait promis ça, un registre des loyers comme ça.
C'est pas directement un registre des loyers, par contre, là, qui est déployé par Valérie Plante, presque en même temps, Mario, on dirait presque qu'ils se sont parlé.
Elle a dit que son engagement qu'elle avait pris, elle se sent pas en mesure de le réaliser, mais elle fait autre chose qui va aider.
Le projet propriétaire responsable, il est présenté aujourd'hui, protection des locataires contre la crise du logement, c'est l'objectif au travers de tout ça. Et là, ben, on parle, entre autres, de réaliser plus d'inspections. Là. C'est surtout une espèce de programme de vérification accrue de la ville et de ses fonctionnaires pour aller...
Des mauvais propriétaires, des bâtiments en mauvais état.
De l'insalubrité, exactement. Puis particulièrement dans des régions ou des quartiers qui sont soit A, plus pauvres, soit B, plus anciens, vieillissants.
Mais la ville... La ville fait pas déjà ça, elle n'est pas déjà supposée s'occuper de ça.
Ils sont censés déjà le faire, Mario. L'on dit
qu'on veut faire plus.
Ouais, on veut inspecter de manière plus intensive dans les parcs immobiliers les plus vieillissants. Exact, je vais la faire encore plus. Puis elle a dit, là, Madame Plante, on va pas attendre que les gens fassent la demande d'inspection. On va aller les faire. On va leur porter assistance plus d'avance. Ils ont donné aussi 30 000 $ à l'organisme Vivre en Ville, qui, eux, veulent bonifier l'espèce de registre des loyers qui sont déjà en train de monter de leur côté, là, de cet organisme-là. Mais ouais, Mario, c'est sûr, c'est une annonce qui semble, là, d'un côté en Ottawa, qui dit, ouais, on prend des initiatives dans des domaines qui sont pas notre compétence, mais ça va avoir l'air bon pour les locataires. Puis on a Valérie Plante qui dit, on va aider les locataires en faisant plus notre job.
Ouais. Mais.
C'est bizarre.
Un jour, il faudra que tout ce monde-là comprenne que tu veux régler la crise du logement, ça prend plus de logement. La ville, dans ce cas-ci, la ville a un pouvoir direct là-dessus, là, sur les délais de construction, les délais d'obtention de permis. D'ailleurs, plus tôt dans l'émission, on a reçu un économiste de la SCHL, là, l'économiste principal de la SCHL, dossier Montréal. Puis c'est la première chose qu'il dit, là, il faut être plus souple, plus rapide à émettre des permis, il faut qu'ils se construisent plus de logements.
Actualité.
Un cas de cour, Mario, assez étonnant, merci, qui est apparu un peu plus tôt aujourd'hui. Puis selon les dernières informations de nos collègues du Journal de Montréal, peut-être que le principal accusé ne sait même pas qu'il l'est encore, à moins d'avoir lu le journal, bien évidemment. On parle d'un réalisateur, Philippe Brisson, 45 ans, qui est formellement accusé, là, depuis lundi, de 2 chefs de vol de plus de 5 000 $, alors qu'on a, ben, en sa possession, il y aurait des objets volés, plus de 100 000 $ de vol. Quel genre de vol? Mais du vol de matériel à Radio-Canada, Mario. C'est là que l'histoire est assez étrange, merci, parce qu'on se souviendra qu'à l'été et à l'automne 2022, on a procédé du côté de la Société d'État à un transfert, d'un déménagement, si on veut, de tout le matériel dans la nouvelle maison de Radio-Canada. On a quitté la vieille grande tour brune, comme on la surnomme affectueusement. Mais dans le processus, on se comprend, déménager autant de matériel qui était là sur autant de décennies, mais c'est un peu le brouhaha, c'est un peu le fouillis, si on veut. Puis dans tout ça, M. Brisson, lui, aurait décidé de voler des objets qui appartenaient à la Société Radio-Canada. On parle entre autres de AirPods, des lentilles de caméra, des caméras elles-mêmes, le bref, du matériel, on se comprend, audiovisuel, qui vaut une fortune, qui vaut très cher, et il l'aurait ramené chez lui. Et là, c'est d'autres employés de Radio-Canada qui auraient vu là une pièce sécurisée dans laquelle on mettait de l'équipement, dont la porte était juste brisée, là, endommagée, puis qui ont mis la puce à l'oreille des enquêteurs, enquête qui a été déclenchée par la suite. Et donc, on se rend compte qu'il y a eu de l'argent, puis du matériel, Mario, volé, là, du côté de Radio-Canada.
Ouais, mais ça avait jamais été mentionné, ça avait jamais été dit. Et, bon, je suppose que, je sais pas, il y a dû avoir une enquête à l'interne. Avant de soumettre ça aux autorités judiciaires, il y a dû avoir une enquête à l'interne. Radio-Canada dit ne pas pouvoir en parler davantage, quoique c'est du bien public, là, c'est les biens d'une société d'État, mais qui sont toujours soumis à l'obligation de protéger la confidentialité des dossiers des employés. Fait qu'à cause de ça, malgré qu'il s'agisse de biens publics, on dit qu'on peut pas en parler davantage. Là, d'autant plus que c'est judiciarisé maintenant.
Voilà. Donc, pas plus d'informations pour l'instant. Il y en aura clairement là, un peu plus tard, Mario.
Tout savoir en 24 minutes.
Et qu'on n'a pas fini de parler de l'éclipse, hein? C'est pas non. Tout de suite, Mario, mais on en parle, puis on en reparle, puis cette fois-ci, mais on en parle pour les mauvaises raisons, parce qu'il y a sur le marché toutes sortes de lunettes là, pour voir l'éclipse. Tu comprends, à peu près tout le monde va vouloir le regarder.
Et ça, c'est pas une blague, parce que l'éclipse, bon, on dit, on capote pour rien, mais on capote pour rien, il y a un danger bien réel pour les yeux. Je veux dire, si vous regardez l'éclipse, il faut avoir des lunettes appropriées, sinon, faut pas la regarder, ou faut la regarder autrement, directement. Mais là, c'est la qualité des lunettes qu'on peut s'acheter, qui soulève des questions. Puis si vous avez des lunettes qui font pas le job, ben là, vous avez le danger de regarder l'éclipse.
Ben oui, puis surtout que c'est pas juste le sud du Québec qui est concerné par une éclipse totale comme ça. Il y a une partie des États-Unis aussi, on est dans le Vermont, on est dans le Maine, qui vont être couverts par l'éclipse totale. Et le problème, c'est que tout le monde veut regarder l'éclipse. Mais on se comprend, là, je connais pas personne qui se dit « Ouais, moi, je vais aller dans mon sous-sol, puis je la regarderai pas, cette patente-là. »
Mais les élèves qui vont être enfermés dans des gymnases.
Non, avec du papier brun tapé sur les fenêtres, Mario. Là, du bon papier brun protecteur. C'est ça qui va faire la job. Non, on rit, mais on se comprend. Tout le monde va vouloir regarder tout ça. Mais évidemment que c'est une opportunité d'affaires croyable pour les fraudeurs, Mario. Et c'est là-dessus ben, que ça s'est mis. Alors que ce soit sur Marketplace, Amazon et même chez Canadian Tire, du côté de nos collègues du journal, on a trouvé de ces paires de lunettes qui sont pas directement homologuées. Là, parce que ça prend une certification précise pour être capable d'avoir des lunettes qui sont dites efficaces. Là. C'est une norme qui s'appelle ISO 12312-2. Okay? Et cette mesure-là, ben, ça permet de prouver qu'ils ont été testés en laboratoire, qu'il y a toutes sortes de mesures qui ont été mises dessus. Le problème, c'est que là, il y a des paires de lunettes où on écrit « oui, oui, ISO », mais ça explique pas d'où ça vient, où ça a été testé, quel est l'endroit où ça a été testé aussi, parce que tout ça, c'est des données qui sont censées être essentielles là, auprès des experts, Mario. C'est ce qu'on explique. Donc, on a ces lunettes qui pourraient être défectueuses, puis on se convainc qu'il y a plein de gens là, qui ont des lunettes qui fonctionnent mal puis qui vont regarder une éclipse, on risque d'avoir une petite avalanche là, de problèmes de oculaires par la suite.
C'est là. Ça, là. Mais là, les gens se demandent comment... peut-être quelque chose qu'on pourrait traiter dans les jours à venir, mais les gens se demandent comment être certain de l'efficacité ou de la qualité de ces lunettes. Je sais qu'on peut les commander sur le site là, Eclipse Québec. Quelque oui. chose, eux, tout ce que tu commandes, là, ils ont des lieux, des points de vente ou tout ce que tu trouves en passant par là. Ça, t'es blindé.
Ouais, voilà, parce qu'Eclipse Québec ont fait justement là, un répertoire des fournisseurs qui sont accrédités pour tout ça. Après ça, ben il y a l'American Astronomical Society qui, eux, là, ont une liste de manufacturiers, d'importateurs qui sont approuvés de leur côté. Et là, les informations que vous devriez pouvoir trouver à l'intérieur des lunettes. Là. Si vous en avez déjà acheté une paire sur Marketplace ou ailleurs, là, je ne dis pas que c'est nécessairement une mauvaise paire, mais il y a des informations que vous devez trouver. Là. Oui, ça prend la mention là, du ISO, ça prend aussi le nom et la localisation de la personne qui a fabriqué les lunettes. Ça prend le nom de l'organisation qui a testé le produit. Des instructions d'utilisation sont aussi écrites sur toutes les paires de lunettes. Il y a un avertissement au soleil aussi de ne pas le regarder directement. Puis il y a des conseils d'entretien et de conservation aussi que vous devriez trouver sur ces lunettes-là. Bref, il va y avoir du texte à grandeur des petites lunettes que vous commandez avec ces instructions-là précisément. S'il n'y en a pas, ben vous pouvez vous poser quelques questions. Puis ça vaut la peine à ce moment-là d'aller voir sur le site Eclipse Québec ou autre avant de regarder directement le soleil, Mario. Je pense que c'est un conseil que tout le monde devrait prendre.
Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes.
Triste nouvelle, un peu inhabituelle aussi ici au Québec. Trois motoneigistes qui sont décédés hier dans une avalanche dans le coin de la Gaspésie. Pas habitué d'avoir ça dans notre coin de pays, Mario, des avalanches.
Quoique en Gaspésie, il y en a, là. Dans les monts Chic-Choc, il y a des avalanches. Il y a même Avalanche Québec là, qui surveille, qui met des avis. Bon, eux étaient un peu en dehors de la zone là, centrale des monts Chic-Choc où Avalanche Québec surveille les avalanches. Ils étaient plus proches de la ville de Sainte-Anne-des-Monts. Mais dans une période où les risques d'avalanche étaient connus, annoncés quand même, il tombait beaucoup de neige, puis... Il faisait soleil, là. T'sais, un soleil après une grosse neige, des grosses quantités de neige, t'as un soleil qui tape, donc qui change la texture de la neige, qui la chauffe. On dit que c'est très propice de la faire décoller, faire partir des avalanches.
Et c'est ce qui est malheureusement arrivé au groupe de 4 motoneigistes, là, originant de l'Estrie, qui était sur place, alors qu'un des motoneigistes, celui qui a survécu d'ailleurs à l'incident, le seul, prenait en photo, là, capturait les images de ce qui se passait comme expédition, mais les autres étaient sur une corniche. C'est la corniche pleine de neige en tant que telle, là, qui s'est comme détachée, si on veut, qui a provoqué un mouvement d'avalanche. On parle d'à peu près 2 mètres de neige qui s'est accumulée sur les 3 hommes qui malheureusement ben, sont décédés. Là. Les autorités n'ont rien pu
mais
faire
ils avaient
pour
pas,
eux.
Ils n'avaient pas non plus rien. Là, les espèces de petits émetteurs, les balises émettrices là, que tu as. Les gens qui font du ski ont toujours ça, de telle sorte que si jamais ils étaient ensevelis après une avalanche, t'sais, des gens équipés vont exactement savoir où est-ce qu'est le corps, creuser tout de suite à la bonne place. Les motoneigistes sont moins craintifs, moins équipés, moins préparés aux avalanches. Je parlais ce matin avec une des personnes d'Avalanche Québec qui disait les gens s'en rendent pas compte, mais très souvent, skieurs, motoneigistes, provoquent l'avalanche. C'est-à-dire que t'as une situation quasi instable, t'sais, de la neige qui est sur le bord de partir, puis qui te manque juste ça, là, quelqu'un qui part, un véhicule, de la vibration, une randonnée en ski. T'sais, ça prend juste ce petit mouvement-là. Donc, les gens sont le déclencheur de leur propre, sans s'en rendre compte, mais le déclencheur de leur propre avalanche. Et c'est loin d'être impossible que ce soit qui soit arrivé ici.
Économie.
Après les États-Unis, voici que le Québec va se joindre à cette croisade qui s'organise lentement mais sûrement contre le site de vente en ligne Bon Marché Temu, qui est d'origine chinoise. Une application géante de la vente que vous avez peut-être vue. sur des réseaux sociaux, dans des annonces, ou même au Super Bowl, Mario, parce que je me souviens que c'était inondé de ça.
Qui est comme une espèce de Amazon un peu bas de gamme.
Ouais, mais bas de gamme comme suspect, Mario. Là. C'est vraiment ça. Là. Tu trouves un bol à salade à 2$, là, un beau bol en bois, pose-toi des questions. T'sais, la plupart des produits sur Temu sont à des prix dérisoire, là, des 1$, des 2$ pour des produits que tu te dis, mais mon Dieu, ça n'a aucun bon sens. Mais si ça n'a aucun bon sens, il y a des raisons derrière tout
c'est
ça, Mario.
C'est de la scrap.
Mais c'est de la scrap, mais c'est pas juste ça. On vole de vos données. C'est ce qui devient de plus en plus apparent. Là. Quand un service est gratuit ou presque gratuit là, sur les réseaux sociaux et sur le web en général...
C'est parce que c'est toi le produit. Là.
C'est parce que c'est toi le produit. Puis dans ce cas-ci, c'est exactement ce qui arrive.
Mais t'es mu pour rentrer carrément dans ton tel, aller chercher les données, les contacts.
C'est ce qui est allégué en ce moment, entre autres, par le Consumer Law Group, là, un cabinet d'avocats, dont Andrea Grass, là, qui est l'avocate en charge de ce dossier-là, qui était avec notre collègue Yasmine Abdel-Fadel, d'ailleurs, plus tôt aujourd'hui à son émission, puis qui explique que oui, il y aurait des risques sérieux là, de cybersécurité liés à cette application-là. Puis comme il y a une proximité, encore une fois, dès que tu es une entreprise en Chine, on se comprend-tu que quand le gouvernement est tout puissant, ben, les murs, les garde-fous entre toi puis le gouvernement lui-même sont excessivement minces, surtout qu'on n'a aucune idée à ce point-ci ben, pourquoi on voudrait accumuler autant de données du côté de Temu. Donc, action collective qui s'organise. Si vous êtes un utilisateur, vous avez été un utilisateur de Temu au Québec, qui que vous soyez, vous pouvez appliquer à cette action collective.
Ouais. Mais d'ici là, d'ici plus de détails sur cette action collective, peut-être une petite prudence avec ce site d'achat. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Isabelle Maréchal.
Tous les trois mois, il faut que tu arrives avec un nouveau produit. Là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Mario Dumont.
Comme on dit en québécois, que ça a fessé. Là.
La rencontre, Maréchal Dumont.
Je sais pas comment on va y arriver.
Isabelle, bonjour.
Bonjour Mario.
Alors, réforme du droit de la famille, ça intéresse beaucoup de couples aujourd'hui.
Oui.
Parce que c'est... On a dit à une époque, on veut pas marier de force les conjoints de fait, les gens qui ont fait le choix de pas se marier, qui sont en union libre. Mais à un point, des experts ont dit, attends un peu, là, quand t'as pas d'enfant, c'est une chose, mais quand t'as un enfant en commun, tout à coup, là, il y a une espèce de trait d'union avec l'intérêt d'une tierce personne qui a rien demandé, qui est petit ou... et qui a des droits aussi, donc il y a besoin de créer une espèce de patrimoine économique.
Tout à fait.
Et c'est ça que le ministre Jolin Barrette essaie de tracer les contours. Là.
C'était beaucoup. Il faut dire que c'est beaucoup Maître Alain Roy, qui est un juriste fabuleux, qui a longtemps siégé à la Cour de la jeunesse du Québec, qui a été son conseiller en matière, et celui de la CAQ et celui de également.
Des libéraux avant.
Des
de
libéraux
tout le monde.
Avant.
Il a fait un rapport de 400 pages sur la question des enfants, du droit familial.
Moi, je le connais bien, Maître Roy et Dr. Roy, et simplement, et depuis, je peux te dire qu'il y a eu effectivement beaucoup de choses qui ont été dites. Moi, j'ai fait beaucoup d'entrevues avec lui. C'est un dossier qui voulait mener de front depuis des années, parce que c'est vrai que depuis 2013, depuis Éric et Lola, on fera pas cette histoire de cette cause-là fort, fort connue, mais on s'est quand même rendu compte au Québec qu'il y avait cette espèce de trou béant, où là, les conjoints de fait étaient dans une espèce de no couples land, et que, bon, t'avais les couples mariés qui, eux, étaient protégés, les enfants étaient protégés, mais pour les couples, les conjoints de fait avec enfants, ben là, c'était n'importe quoi.
Puis t'as, on en parlait pendant la pause, le fameux exemple, là, tu sais, le gars il va dire, tu sais, il est en affaires, déjà une maison, la conjointe vient vivre avec lui, puis il va dire, regarde-moi, je vais continuer à payer la maison.
Toi, tu payeras le papier de toilette.
Le papier de toilette, puis l'épicerie, puis tout ça. Sauf que là, si c'est avec un enfant, la conjointe, elle a rien qui a vraiment...
Non.
Tu sais, le papier de toilette qui a été utilisé, puis les bananes ont été mangées, puis la maison reste avec une valeur, tu sais.
Exact. Et je te disais le papier de toilette parce que j'ai eu l'occasion de parler à plusieurs femmes, et une,
non,
entre autres, m'avait
réel,
dit...
Ah,
mais c'est très réel. Et une qui avait vécu exactement ce que tu décris m'avait dit, moi, je me suis retrouvée sans rien après ma séparation. Mon conjoint a payé la maison pendant des années. On a eu des enfants. Moi, j'ai même mis ma carrière en veilleuse. J'ai donc contribué à l'enrichissement de mon conjoint. Et cette notion, d'ailleurs, d'enrichissement est connue, là. Et donc, et là, quand on s'est séparés, j'avais plus rien. La maison n'était pas à mon nom. J'avais pas la maison à mon nom. Elle avait même payé, elle contribuait à payer une partie de l'hypothèque qui était considérée comme un loyer que le juge, pendant, parce que c'était allé en cours, puis le juge n'a pas considéré ça. Il considérait que c'était une compensation parce qu'elle habitait la maison de son conjoint. Et elle n'a eu aucune pension alimentaire pour elle. Il y en a eu pour les enfants. Puis il a fallu qu'elle se batte, mais elle-même, et elle m'avait dit, moi, j'ai payé tout ce qui se flochait. Le papier de toilette, la bouffe, puis les couches. Tu sais, tu comprends? Ne flochez pas vos couches. Mais tu comprends? Mais ce que je veux dire, c'est que... Et puis j'avais trouvé que l'image était forte.
Oui, non, mais c'est
là.
Ça.
Et
dans certains cas,
important.
Ça devient dans le désintérêt de l'enfant. Là, parce que si c'est déséquilibre économique, selon, bon, on va partager le temps, mais ça devient dans le désintérêt de l'enfant.
Oui, puis tu sais pourquoi, Mario? Parce que aussi, ça crée des situations tellement toxiques entre les parents. Puis là, on pourrait parler de cette espèce de violence juridique, violence financière les conflits entre les ex-conjoints, là, ça peut... On a vu... Tu sais, dans 80 % des cas, on va dire ça se passe bien. C'est toujours 80-20, la règle dans la vie, là. Mais il y a quand même beaucoup de couples qui se déchirent quand ils se séparent. Et les enfants sont au cœur, souvent, des conflits et sont tiraillés parce que souvent, on les amène même à choisir. Là, tu
mais
vois...
c'est
ce
que le droit... protégeait bien peu les enfants
exact.
Dans les cas de couple en union libre voilà. Jusqu'à... Ben, et là, quand même, le projet de loi, tous les enfants, soyons clairs avec les gens, tous les enfants déjà nés, ça ne les touche pas.
Non.
On parle... Le projet de loi rentre en vigueur en 2025
exact.
Pour les nouveaux enfants à naître.
Tout à fait, exactement. Et ça, c'est très important. Donc, si vous avez des enfants, paniquez pas, on vous demande pas de vous marier. Puis cette notion, il l'a rappelé, le ministre de la Justice, aujourd'hui, c'est clair qu'on veut pas marier les gens de force, mais c'est sûr qu'il faut protéger les enfants, puis il faut aussi donner des balises, puis il faut aussi amener les gens à penser. Moi, je pense qu'il y a la plus grande vertu, à mon avis, d'un projet de loi comme celui-là. Puis je dis projet de loi, parce que c'est pas une loi, là. Ça va aller en commission parlementaire. On va en débattre. Il y a des groupes qui vont sortir. Ça a déjà commencé.
Des opposants, là, hein?
Ben, tu vois, comme Maître Anne Goldwater dit, ben, voyons donc, pourquoi ça touche que les gens qui ont des enfants? Pourquoi pas les couples conjoints de fait non mariés? Elle a pas complètement tort parce que des fois, t'as pas d'enfant, mais si t'es 25 ans avec l'autre, bon, en même temps, moi, je pense que, tu sais, si t'es deux adultes...
C'est un autre dossier.
C'est un autre dossier.
Mais si t'es deux adultes consentants...
Arrange tes affaires.
Tu vis en union libre, tu te maries pas, puis t'as pas d'enfant, il y a pas de tierce personne, à un moment donné,
exact.
Si ça te convient pas comme relation, on sort, là.
Oui, exactement. Mais ça, le sort...
Mais je sais que c'est pas simple,
non,
Elisabeth,
c'est pas simple.
Mais si je te dis... C'est pas le même dossier.
Non, c'est
que
pas le même dossier.
Un enfant,
t'as
qui a une
raison.
Tierce personne, qui oui. est mineure, qui est tout petit au
et,
début.
Et, et c'est pour ça. Là, je pense qu'il va y avoir. Mais ce que je te disais, c'est que la grande vertu pour moi, c'est qu'on va parler notamment des différents types d'unions. Qu'on va dire, qu'on va rappeler aussi aux conjointes. Puis j'insiste sur les femmes ici parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes aussi, des gars aussi, mais surtout des femmes qui sont pas conscientes que quand elles payent juste l'épicerie puis pas l'hypothèque, ben il y a peut-être un problème plus tard. Puis c'est vrai que t'es dans une situation d'amour. Ça te tente pas de penser à dans 5 ans quand tu vas te séparer. Demande aux couples qui viennent de se former. Savez-vous que vous avez une chance sur deux de plus être ensemble dans 5 ans? C'est la statistique. Ils vont dire, ben voyons donc, si ça se peut pas, ben non, pas nous. Ben, peut-être, mais c'est justement quand t'es en amour qu'il faudrait que tu penses à ta clause de sortie. Tu comprends?
Ouais.
Mais bon, personne le fait, puis je veux dire, je suis pas meilleure que les autres. T'sais, moi, je l'ai pas faite non plus. Nous, quand on s'est... Moi, au début, je voulais même pas me marier, tu vois, parce que je trouvais qu'on était justement assez adultes pour être capable de gérer nos affaires et tout. Puis finalement, moi, mon chum, mon mari, il aimait vraiment le concept du mariage. Puis moi, je respectais ça aussi. Puis je trouvais qu'on avait aussi 3 enfants, tu sais, d'unions différentes. Je trouvais qu'il y avait quelque chose qui venait sceller.
Mais nous, dès qu'on,
dès qu'on a eu
un premier enfant, on s'est marié.
Ben voilà, c'est ça. C'est ça. Moi, je trouve que.
Je pense encore sa place. Je sais que c'est plus à la mode.
Mais je pense encore sa place. Et surtout qu'aujourd'hui, tu peux te marier comme tu veux. Tu peux te marier à l'église, si ça tente, si t'es plus traditionnel,
ouais.
Mais tu peux réserver...
Ton mononcle drôle peut être célébrant, là.
Exactement, tu sais, mononcle Michel, là, qui est un bon, tu sais, un bon organisateur, puis tu peux faire ça à ton chalet, si ça te tente, tu sais. Donc, il y a vraiment tellement de possibilités que... Mais je trouve que c'est quand même intéressant. Après, il y a la question de la résidence familiale, qui va être partagée. Il y a les biens partageables. Évidemment, c'est compliqué, là, je peux pas tout rentrer là-dedans,
mais... Si on veut simplifier, parce qu'on a plus de temps, mais ce qui reste en dehors, c'est les régimes de pension, voilà, et puis ça, les résidences secondaires.
Puis je voulais terminer là-dessus parce que je pense que c'est quand même quelque chose. C'est sûr que c'est complexe, puis là, c'est sûr, les personnes, mais tu sais, moi, j'ai encore des amis, des fois, qui m'appellent, qui me disent « Ah, Isa, je me souviens plus. Peux-tu me redire que c'est quoi la loi sur les REER? Mettons mon conjoint, là, si jamais il mourait, est-ce que son REER est automatiquement roulé dans mon REER à moi? » Il y a comme plein de mythes.
Si t'es marié, il fait partie de...
Non, conjoint de fait, non.
Conjoint de fait, non.
Conjoint de fait, son REER, c'est pas ton REER. Le REER va aller aux enfants de son, s'il y a des enfants adultes, mais la conjointe de fait n'aura pas forcément le REER.
À moins que ce soit stipulé
à moins qu'il y ait un testament. Exactement, mais il n'y a rien d'automatique. Alors, occupez-vous de vos affaires, sinon les autres vont s'en occuper.
Merci Isabelle.
Mais ça me fait grand plaisir.
Les vraies questions. Les vraies questions. Les vraies questions.
La réforme du droit de la famille, un nouveau volet a été présenté par Québec parce que les temps changent. Vous êtes en union libre et qu'un projet d'enfant est dans l'air. Bien, prêtez l'oreille. Nos analystes vont tout nous expliquer, nous dire comment ils reçoivent aussi ce projet de loi. Marie-Emmanuelle, Paul, bonsoir.
Bonsoir.
Donc, on veut moderniser le Code civil pour créer un nouveau régime conjugal, l'union parentale. Les chiffres nous montrent à quel point, je disais, notre société a changé là, dans les dernières années. Les couples qui vivent en union libre, là, ça a bondi de 8 %. Vous voyez les chiffres, là, 42 % en 2021. Et si on se compare à d'autres pays, c'est encore plus incroyable. Il fallait donc s'adapter aux nouvelles réalités du couple, Emmanuel.
Oui, mais il fallait s'adapter sans imposer le poids du mariage au couple d'aujourd'hui, parce qu'on n'est plus dans une logique comme dans les années 80 de protéger la femme au foyer ou la femme qui gagne moins que son mari, etc. L'idée, c'est de protéger les enfants. Donc, comment tu fais pour faire ça sans imposer les obligations du mariage à un couple qui a des enfants? Moi, je comprends que ça a pris 10 ans à accoucher de cette formule-là, parce que le ministre Jolin Barrette, il fait vraiment dans la dentelle, là. Finalement, ce concept-là, il s'applique seulement à partir du moment où un enfant naît. Donc ça, ça règle le problème. Et il est très étroit, le patrimoine de cette union-là.
Ou qu'on adopte un enfant, Emmanuel? Hein? Ou qu'on adopte un enfant, projet d'adoption.
Oui, ou qu'on adopte un enfant, je devrais le savoir, en effet. Et l'enjeu, c'est quoi? C'est la résidence, les meubles, la voiture. Pourquoi? Pour assurer une stabilité à l'enfant. Mais tout le reste qui est inclus dans le mariage, les pensions, les REER, le chalet, le reste de la richesse là, que l'un ou l'autre peut avoir, bien ça, on l'exclut pour maintenir l'idée qu'au Québec, il y a une différence entre être marié puis être pas marié.
C'est ça. Le ministre de la Justice a expliqué l'intention derrière ces changements. On écoute un extrait du point de presse.
On ne voulait pas marier les Québécois de force, mais on veut assurer une protection, un filet de sûreté pour les enfants.
Ça, l'ultime, c'est entre autres, Mario, de donner des droits aux conjoints de fait, de mieux protéger les enfants qui sont concernés aussi.
Oui. Et je pense qu'il faut faire ça. C'est une chose, tu sais, que deux adultes qui vivent en union de fait, deux adultes consentants, comme on dit, ils font ce qu'ils veulent, puis si au bout d'X années, ça marche plus, chacun s'en va chez eux avec ses affaires. Mais à partir du moment où il y a un enfant, puis bon, moi je suis de la vieille école, là, le mariage devrait être encore permis, peut-être même suggéré, mais bon, pour le reste, tu sais, ceux qui décident de ne pas se marier, ben ils doivent quand même prendre conscience qu'il y a un devoir. Là. Il y a un nouvel être, une nouvelle personne qui vient venir au monde avec des droits, incluant des droits économiques, une stabilité. Donc, qu'un patrimoine soit créé autour de l'enfant, c'est, je pense que c'est une chose qui est tout à fait dans l'ordre des choses. Je suis d'accord avec Emmanuel. C'est pas simple parce que là, à un moment donné, tu dis, OK, on passe où le ciseau? Là? Qu'est-ce qui est les finances autour de ce patrimoine de l'enfant versus strictement le couple? Mais un point, il faut le faire.
Effectivement, ça a pris 10 ans, mais ça les prenait. Autre intérêt, Paul, si un couple est en union parentale, parce qu'ils ont été au moins un an ensemble avant un décès, le conjoint survivant va pouvoir hériter en partie, en tout cas, là, même s'il n'y a pas de testament.
Oui, ça aussi, c'est une protection additionnelle pour les conjoints ou les conjointes de fait, mais essentiellement, tout est centré beaucoup sur les enfants à naître. Moi, je veux pas dire que je suis de l'ancienne école comme Mario, mais je suis d'une autre génération qu'il y a bien des gens qui nous écoutent. Et à l'époque, moi, j'entendais, pas moi, mais juste avant moi, vivre en union de fait, c'était vivre dans le péché. Là, je me souviens d'avoir entendu ça. Puis je reviens aux chiffres, Sophie, dont tu parlais tout à l'heure, l'évolution en 40 ans au Québec. En fait, c'est pas une évolution. révolution. Quand on y pense, c'est une révolution, dans la façon de vivre au Québec en moins d'un demi-siècle. Et puis bon, le ministre, c'est un terrain qui est toujours délicat, avance là-dessus de manière calculée. Et puis moi, je note aussi que c'est pas sa première réforme qui l'amène pour toutes ces questions de droit familial et de l'administration de la justice, là, notamment pour protéger les femmes. Donc, une initiative qui, on le voit, là, les partis d'opposition, unanimement.
C'est bien reçu, hein?
Ouais, c'est ça. Ouais. Tout le monde salue, là. Je pense qu'il a mesuré. Ça va pas assez loin, selon certains groupes. Mm. Mais, n'empêche, je pense que rapidement, le consensus va se faire autour de ça.
Ça devrait entrer en vigueur en 2025. Alors, on suivra ça. Maintenant, Justin Trudeau, qui fait de l'effeuillage budgétaire, qui a trouvé le moyen d'enrager, une fois de plus, les élus du gouvernement Legault avec ce projet qui touche les locataires. Alors, fonds de protection des locataires, une charte canadienne des droits, notamment, qui permettrait d'offrir un historique des loyers pour permettre aux locataires de négocier équitablement. Problème, il a les deux pieds dans les compétences provinciales, Emmanuel.
Oui, mais c'est tellement symptomatique de ce gouvernement-là. Il n'y a plus une scène, mais il faut qu'il ait l'air de faire quelque chose, hein? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On arrive avec cette charte des locataires, mais c'est complètement inapplicable, Sophie, là. Pensez-y, là, un bail unique au Canada, un registre des loyers au Canada, ça a coûté 2 milliards faire un registre des armes à feu qui n'a jamais bien fonctionné. Est-ce que quelqu'un qui s'imagine qu'un gouvernement qui est fédéral va être capable de mettre en place un registre des loyers? Mais le pari, c'est qu'on dit on va travailler avec les provinces. Ça, c'est supposé comme adoucir les coins. Ouais. La réalité, là, c'est que c'est une tentative transparente pour essayer de se racheter le vote des 18 à 34 ans. Écoutez, c'est hallucinant. En 2015, 45 % des 18 à 34 ans ont voté pour les libéraux. Quand on regarde les derniers sondages, il est rendu à 20 % Et c'est qui a récolté ces votes-là? C'est le Parti conservateur de Pierre Poilievre, d'où cet accent là, sur aider les jeunes, la promesse du Canada. Mais
c'est ça que c'est ça que vous y voyez aussi? Mario, Paul?
Ben, moi, je reviens au concept de vieille école. Moi, j'ai toujours couvert des budgets. Les mesures budgétaires étaient contenues dans le budget au moment de l'annonce du budget. Alors qu'on commence à divulguer ces choses-là bien avant, j'ai hâte de voir comment s'il n'y aura pas une suite parlementaire ou réglementaire à la stratégie du gouvernement, qui, de toute évidence, fait n'importe quoi, tente de faire flèche de tout bois pour se sortir de son pétrin politique actuel.
Ouais, en tout cas, on a vu l'accueil. Hein,
mais c'est un ouragan centralisateur, là, sincèrement. Des programmes en santé, soins dentaires, assurance médicaments, le logement. Tu sais, c'est des affaires qui sont pas ambiguës. Dans la Constitution canadienne, les pouvoirs sont séparés, puis ça, c'est dans province. Alors, t'es supposé être dans un fédéraliste, que le gouvernement fédéral, puis c'est pas que dans ses juridictions à lui, c'est pas que ça va si bien que ça, qu'il s'occupe de ses affaires et qu'il laisse les provinces s'occuper des leurs. Parce que je sais que bien des gens vont dire, ben là, si c'est bon, que ça soit fait par le fédéral, par le Québec, on peut pas dire ça. Parce que ça veut dire qu'on va embaucher d'autres fonctionnaires qui viennent se dédoubler, puis nous autres, on paye en double pour des choses qui se font à Québec, qui se font. C'est tout ce qu'on veut plus là, dans un fédéraliste qui est devenu inefficace, dysfonctionnel.
Parlant de fonctionnaires, tu ouvres la porte pour le prochain sujet dont on discutera après la pause. Bernard Legault qui n'a pas réduit la taille de l'État comme il l'avait promis avant de prendre le pouvoir. On en discute au retour. Conserve des
Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont.
Changements climatiques sont supposés changer nos vies, nos façons de se transporter, de se chauffer, de se nourrir. Mais le temps? Les changements climatiques vont changer le temps?
Ben le temps tel qu'on le connaît, Mario. On se comprend, on va pas changer l'espace-temps avec les changements climatiques. Hein, et même si tous les humains meurent, demain rôti sur la Terre, mais elle va nous survivre aussi. Mais le temps va être changé de la manière dont on le calcule puis on le conçoit, Mario. Parce que... dans le monde entier, pour tout ce qui est horloge, mais aussi maintenant, réseau informatique, GPS et autres, on s'appuie sur des mesures d'horloge atomique qui sont ultra précises. Là. C'est excessivement précis.
Ce qui fait que tous nos selles changent de minute à la même fraction de seconde.
Exactement. Là. Ce qui fait que tout le monde est à la même heure en tant que tel. Là.
Alors qu'autrefois, quand chacun avait sa montre à aiguille, on était à 7-8 minutes près. Là.
Exactement. Là. Ça pouvait être décalé d'un moment à un autre. Mais maintenant, c'est rendu super précis puis on en a besoin mais pour à peu près tout ce qu'on utilise là, d'interconnecté. Maintenant, le problème, là, c'est que ça se perpétue depuis 1967.
Quoi, les réactions atomiques se réchauffent et le temps passe plus vite?
Ben, c'est que le problème, c'est qu'on base tout ça sur la rotation de la Terre. La rotation de la Terre, elle n'est pas constante. Donc, de temps en temps, là, par exemple, en 72, on avait ajouté une seconde au temps intercalaire, c'est comme ça qu'on appelle ça, pour être capable de...
Moi, j'avais deux ans, j'avais trouvé l'année longue.
Ouais, t'avais trouvé ça tough, hein, Mario?
À cause de cette seconde-là, ouais.
Et la seconde de rajouter. Mais là, le problème, c'est qu'en ce moment, ben, on est en train là, d'accélérer la rotation de la Terre. Pourquoi ça accélère? Mais à cause de la fonte des glaciers, Mario, entre autres au Groenland, puis sur les deux pôles, sur la planète, quand tu finis par mettre plus d'eau liquide sur le reste de la planète, ben ça impacte la rotation terrestre. C'est aussi, c'est bizarre, mais tu sais, les marées, la lune, l'attraction, tout ça, ça vient jouer, règle générale, sur la vitesse à laquelle la Terre va tourner. Mais plus il va fondre des glaciers, plus la Terre va se mettre à tourner vite, ce qui fait en sorte que là, au lieu de rajouter une seconde, faudrait théoriquement enlever une seconde. Mais le problème, c'est qu'à peu près tout ce qu'on a construit, ça marche. On peut en ajouter, mais en enlever une, c'est pas clair comment on va faire ça sur nos systèmes. Il y a même de ces scientifiques-là là, qui disent, qui étudient le temps, qui disent, moi, au moment où on va changer ça, j'aimerais pas ça me trouver en avion, par exemple, parce que ça pourrait perturber quelque chose. Gros problème, dilemme devant nous.
Ça va me faire une excuse pour être en retard. Merci, Alexandre.
Mario Dumont. Une feuille de route impressionnante. Un curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération. Curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération.
Donc, oui, revenons sur une promesse importante de François Legault, la cure minceur pour la fonction publique québécoise. En 2018, il promettait d'abolir 5 000 postes. Cinq ans plus tard, il y en a presque 11 000 de plus. Et ce sont surtout, vous voyez les chiffres, là, des cadres, des employés de bureau. C'est pas surtout des gens dans les écoles, les hôpitaux là, qui donnent des services de proximité. Alors, la cure minceur, plus facile à dire qu'à faire, apparemment, Emmanuel.
Ce que ça démontre, c'est que ça prend beaucoup, 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 beaucoup de monde pour gérer les gens qu'on embauche pour donner des services. Et c'est ça, je pense, tout le problème de cette logique-là, c'est que les Québécois seraient absolument à l'aise avec une hausse importante quand il s'agit des profs, des enseignants, des gens dans les hôpitaux. Mais là, on est comme incapable de trouver une façon pour l'État d'être efficace. Comme si la seule chose qui comptait, c'était suivre des règles, appliquer des programmes, tu sais, suivre des normes. Mais c'est comme si l'État s'était privé de toute notion d'obtenir des résultats avec le moins cher possible. Et c'est ce qui mène, moi, je pense, à cet engraissement phénoménal. Là.
Et le mouvement à la hausse qui se poursuit hein, depuis le début du second mandat, là, Paul, le Conseil du Trésor a donné ses explications. Bon, on dit qu'on a atteint des cibles d'attrition qui auraient généré des économies de presque 400 millions. Comment on doit recevoir ces explications-là?
Non, il fallait voir à la ministre Sonia Lebel tenter d'expliquer un peu la situation. Elle dit, elle, que les 5 000 postes promis en 2018 ont bel et bien été abolis. Ouais. Mais bon, parallèlement, il y a eu toutes sortes d'embauches. On verra. Mais ce que ça illustre, au fond, tout simplement, c'est que c'est tellement facile dans l'opposition de promettre ce genre de choses-là. Mais quand vient le temps de le réaliser, c'est une autre paire de manches. Ouais. Il n'existe pas de baguette magique. Les pressions politiques, tout de suite, peu importe le parti qui prend le pouvoir, les pressions sont telles que ça prend une énorme dose de courage pour couper. Et comment réduire la taille de l'État sans que ça ait un impact directement sur les services déjà déficients à la population? Ouais. Ça démontre une chose, c'est que cure minceur, il n'existe pas d'Ozempic politique. Ça n'existe pas et ça demande beaucoup de courage. Ouais. Et si le gouvernement veut aller de l'avant dans son intention éventuellement de réduire ou d'optimiser les ressources...
C'est annoncé dans le dernier budget, là, examiner les dépenses, des ministères, des organismes. Mario, ça va en prendre de l'Ozempic éventuellement, là? Est-ce qu'on peut y croire?
Bien, ça va prendre du courage, surtout. Paul a entièrement raison. C'est facile de le proposer dans l'opposition. C'est difficile de le faire, mais on élit nos gouvernements aussi pour faire des choses difficiles. Puis quand tu as des gouvernements majoritaires avec des fortes majorités de sièges, bien, c'est le temps de te rouler les manches, de te mettre au travail. Puis quand, en plus, tu as des gestionnaires qui viennent du secteur privé, qui promettent l'efficacité, c'était ça la CAQ. Là. C'était ça la raison d'être de la CAQ. C'est ce qu'il fallait faire. Donc, la déception d'une partie de l'électorat aujourd'hui, on la comprend. Ouais. Puis bon, là, il commence à être... commencer à s'attaquer à ça maintenant, c'est difficile, mais c'est la machine gouvernementale, elle fait juste ça, là, se créer des justifications puis des nouveaux postes, puis tout le monde veut qu'on en embauche d'autres, puis c'est comme un reptile, tu y coupes la queue puis il en pousse deux, là. Fait que c'est sûr que ça prend du courage puis de la ténacité, ça prend de la ténacité, mais t'es élu pour ça aussi, là, pour gérer, puis peut-être essayer de soulager les pressions financières sur l'État. Là.
Ouais. De temps fil, et je vais vous entendre sur le prochain sujet. Il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'on parle des effets inquiétants des tablettes, de l'usage des réseaux sociaux pour nos jeunes. Lundi, Vous n'avez peut-être pas vu ça passer. La Floride a adopté une loi qui interdit aux jeunes de 14 ans et moins de posséder des comptes sur les réseaux sociaux. Ça entre en vigueur en janvier. On écoute le gouverneur de la Floride.
Now, with things like social media and all this, you know, you can have a kid in the house, safe seemingly, and then you have predators that can get right in there, into your own home. You could be doing everything right, but they know how to get and manipulate these different platforms.
Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est applicable?
C'est ça le problème. La maman d'une ado en moi vous dit oui, 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 s'il vous plaît, oui, oui,
je
oui.
Je veux, je veux, je veux.
La journaliste reconnaît que ce sera... Le Canada ne peut pas faire ça seul. On l'a vu, là, juste légiférer les médias sociaux pour les nouvelles, ça a été un fiasco total. Donc, le Canada ne peut pas faire ça seul. Moi, je pense que la vertu du geste fort posé par la Floride, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait une sonnette d'alarme. Parce que ce n'est pas seulement une question de l'intimidation des jeunes, de la violence, la sextorsion. C'est rendu qu'on a des études qui démontrent de plus en plus les effets sur leur cerveau.
Exact.
C'est grave, là, ça. Ouais. Et moi, je suis ahurie par le silence des autorités politiques au Canada sur cette question-là.
Mais comment interdire un jeune de 12, 13, 14 ans d'ouvrir un compte Facebook sous un autre nom? Tout ça, l'applicabilité de ça, évidemment, reste à démontrer. Il faudrait peut-être une loi aussi, peut-être, pour resserrer le contrôle parental. Je ne sais pas si une loi pourrait suffire là-dedans. C'est un autre moyen d'agir aussi. Là.
Les parents, hein, ça existe. Hein? Emmanuel nous le dit tout le temps. Les parents, ça existe.
Oui.
Mais on n'en sort pas de la responsabilité des. Oui, on n'en sort pas de la responsabilité des parents, hein, parce que, tu sais, l'exemple qui me vient à l'esprit, c'est les sites, soit les sites Internet qui vendent de l'alcool ou il y a de la pornographie. Évidemment, avez-vous 18 ans, là, le jeune de 14 ans, il clique oui. Ben, tu sais, fin de l'histoire, le site s'ouvre. C'est la même chose. Tu veux ouvrir un compte sur les réseaux sociaux, tu mets ça 18 ans. Mais ben, le jeune, il va faire combien? Il va calculer le 2014, c'est quelle année pour arriver à 18 ans, puis il va mettre sa date de naissance de l'année voulue. Ouais. Tu sais, c'est. Comment tu vas gérer ça après? Comment tu vas empêcher un jeune de rentrer la mauvaise adresse.
Le téléphone de ton enfant.
Ben là, mais ça, c'est, là, on revient à la responsabilité du parent. Si tu le vérifies pour ça, ben, tant qu'à faire, gère ses réseaux sociaux ou encadre son utilisation du temps d'écran.
On n'a pas fini d'en parler, je vous assure. Merci beaucoup à vous trois. On se retrouve demain.
Allez, salut.
Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, Mario Dumont. Tout en débattant des enjeux de société.
C'est une réforme majeure qui va toucher des centaines de milliers d'enfants à terme et plus là, dans les prochaines années. Réforme du droit de la famille qui touche les couples en union libre qui ont un enfant. Il est avec nous, le ministre de la Justice du Québec, Simon-Jolin Barrette. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Dumont.
Faut essayer de simplifier ça. C'est quand même des termes de droit un peu compliqués. Je vais commencer ma première question par poser la question. Quel problème vous voulez régler? Si on voulait partir de là, qu'est-ce que vous êtes ministre et qu'est-ce que vous dites? Moi, ça, c'est le problème auquel je veux m'attaquer.
Bien, l'enjeu principal était à l'effet que les conjoints de fait, souvent, qui avaient des enfants, se retrouvaient dans une situation d'interdépendance économique. Parce qu'ils avaient des enfants, ils n'étaient aucunement protégés. Et d'une façon corollaire, l'enfant aussi se retrouve à être moins bien protégé. Donc, la réforme que je fais suite aux deux premiers projets de loi que j'ai déposés sur la filiation et sur la grossesse pour autrui, pour faire en sorte de garantir un filet de sûreté dans l'intérêt de l'enfant, à la fois au conjoint et à la fois à l'enfant du point de vue économique. C'est pour ça qu'on prévoit le patrimoine d'union parentale qui va comprendre la maison, les automobiles ainsi que les meubles.
Donc, pour un couple en union libre, un enfant naît, votre loi va entrer en vigueur en 2025. Donc, un enfant naît en 2025. Donc, de facto, autour de cet enfant se crée une espèce d'union parentale. Donc, il n'y a pas un mariage, il y a un nouveau statut à l'intérieur duquel un patrimoine est bâti. Avec ce que vous venez, dans ce patrimoine-là, il y a la maison, il y a l'auto. Mais il n'y a pas les fonds de pension, il n'y a pas les résidences secondaires. Pourquoi vous avez laissé certains items en dehors du patrimoine?
Parce que c'est un filet de sûreté, c'est un filet de sécurité et ça s'applique, vous l'avez bien dit, après la sanction de la loi, après l'adoption de la loi, aux couples qui auront un nouvel enfant. Alors moi, je pense que c'est important de pas marier les gens de force, donc c'était pas le régime du mariage qui s'applique. Vous l'avez bien raison de dire que dans le mariage, oui, il y a les régimes de retraite, il y a les REER, il y a également la pension alimentaire pour ex-conjoints. Dans le cadre de l'union parentale, c'est un régime précis qui vise à mieux protéger les enfants. Alors, c'est pas le même régime, mais les gens ont toujours la possibilité de choisir. Ils peuvent décider de se marier. Ils vont être assujettis au régime d'union parentale obligatoirement. Ils vont pouvoir décider de s'en exclure aussi, parce qu'on laisse l'autonomie de la volonté aux parents de décider, ben écoutez, nous, après l'avenue de l'enfant, on fait un choix conscient, on va chez le notaire et on décide de s'exclure en tout ou en partie. Mais ils ont également la possibilité d'ajouter des protections sans même se marier, comme c'est le cas actuellement par un contrat de vie commune, et d'ajouter des protections. Même chose pour les gens qui n'ont pas d'enfants, ils ont toujours le loisir de, s'ils veulent faire un contrat de vie commune, ils peuvent le faire. Mais je pense qu'il y avait un minimum à atteindre pour faire en sorte d'avoir un juste équilibre entre le mariage et entre le fait d'avoir un enfant, parce que ça amène des impacts, le fait d'avoir un enfant. Tout le monde qui a eu des enfants sait qu'il y a un avant et un après avoir des enfants. Alors moi, je pense que c'est important de mieux protéger les enfants. Puis le point important aussi dans le projet de loi qu'on met, et ça, on peut pas y déroger, c'est la protection associée à l'usage de la résidence familiale. Vous savez, on a tous déjà entendu des histoires, Monsieur Dumont, où monsieur est propriétaire de la maison, se fait une nouvelle conjointe et donc envoie son ex-conjointe et les enfants du jour au lendemain sur la paille. Et donc, on veut faire en sorte que pour les gens non mariés, la résidence puisse être attribuée temporairement par le tribunal pour faire en sorte d'assurer une stabilité aux enfants dans leur nid familial, dans leur milieu familial. Alors, ce sont des mesures qui visent à assurer davantage de protection.
Il y a le cas, on en a parlé plus tôt dans l'émission, on a tous des exemples en tête, là. Puis bon, on dit homme-femme, là, c'est un peu stéréotype, ça peut être inversé aussi, mais ça semble être souvent l'homme, exemple, qui va dire, ben, des fois, il avait déjà acheté une maison, un nouveau couple se forme, mais l'homme a déjà, par exemple, une maison, puis il va dire, regarde, on fait un deal, ça va être juste pour tout le monde, moi, je continue à payer la maison, moi, je continue à payer l'hypothèque, puis toi, ben, tu vas payer ta part, tu vas payer l'épicerie, puis une série de petits achats, là, tu sais, du quotidien, mais le couple a des enfants, puis 10 ans après, se sépare, on se comprend que le monsieur, lui, a une maison. Le savon, quelque chose, le papier de toilette, puis les pommes, puis tout ça, c'est disparu. C'est ça le genre de scénario auquel vous voulez vous attaquer aussi, le cas où l'enfant devient victime d'un partage comme ça, parce que peut-être un des deux conjoints a pas mesuré pleinement le déséquilibre, mais que l'enfant devient victime?
Entre autres, vous avez raison, parfois il y a de l'interdépendance économique qui est créée par le fait qu'on a des enfants. Puis effectivement, le cas que vous soulevez a pas vraiment de bon sens lorsque les dépenses courantes sont payées. Ça arrive, il y en a plein de cas. Puis les gens, ils pensent qu'ils sont protégés parce que, vous savez, l'impôt, souvent, nous considère comme des conjoints de fait. Même chose, le régime des rentes également, nous considère comme des personnes mariées avec les protections. Parfois, les régimes d'assurance individuelle, c'est le cas, mais en matière de droit privé, c'était pas le cas. Alors là, souvent également, pour les Québécois, l'actif le plus important qu'ils ont, c'est la maison. Donc, il ne faudrait pas se retrouver avec quelqu'un qui a payé le loyer, puis qui a élevé une famille, des enfants, qui a sacrifié du temps, qui s'est investi, puis se retrouver le bec à l'eau, et notamment que les enfants aussi se retrouvent dans cette situation de vulnérabilité financière-là. Alors, ce que l'on fait, c'est qu'on dit, ben écoutez, il y a un régime de base qui s'applique lorsque vous aurez des enfants, après la sanction de la loi. On revient pas dans le passé parce que les gens qui ont des enfants de 2, 6, 20 ans aujourd'hui, à l'époque, ont fait leur choix d'une certaine façon en vertu du cadre légal applicable. Ils peuvent décider de s'y assujettir volontairement, mais on ne l'impose pas.
Ça, c'est important. Là. Donc, ce que vous mettez en place, quelqu'un qui avait ses enfants avant pourrait décider en 2025, nous on aime ce nouveau régime d'union parentale et on s'y soumet. Ils vont le faire comment? Devant le notaire? Devant au gouvernement? Comment on va pouvoir s'y soumettre?
Bon, pour se soumettre à ce cadre-là, c'est pas nécessaire d'aller chez le notaire. On va mettre en place un formulaire simplifié sur le site gouvernemental juridique, un site d'information juridique, où ça sera possible de s'y assujettir d'une façon très simple par contrat avec son conjoint. Mais bien entendu, les deux doivent être d'accord pour pouvoir y souscrire. Et c'est pas différent du contrat de vie commune actuellement où les gens peuvent ensemble décider quelle protection s'applique à eux. Alors, c'est différent du mariage. Mais on vise les nouveaux couples. Puis vous savez, la situation des couples change au Québec. 65% des enfants désormais naissent hors mariage. 42% des couples ne sont pas mariés au Québec, alors qu'en 1980, quand Marc-André Bédard a adopté la réforme sur le droit de la famille, c'était seulement 8% des couples qui vivaient en union de fait. Donc la situation a complètement changé, puis c'est important d'ajouter des protections pour les enfants au bénéfice de leur intérêt. L'autre point qui est important dans le projet de loi, M. Dumont, c'est le fait qu'on vient nommer la violence judiciaire pour faire en sorte que, vous le savez, parfois, il y a des ex-conjoints qui utilisent les tribunaux pour maintenir une certaine forme de contrôle ou pour faire en sorte de multiplier les procédures et faire en sorte que les enfants soient pris entre ça. Donc, nous, ce qu'on dit aux juges, c'est que désormais, vous devez prendre l'historique des procédures judiciaires, les conséquences de ces procédures-là sur les ex-conjoints, sur les enfants, et également regarder l'équilibre des forces, notamment s'il y a présence de violence conjugale et familiale aussi. Alors, c'est une mesure justement pour pas que les tribunaux soient instrumentalisés, puis pour faire en sorte qu'il y ait une proportionnalité dans les procédures. Vous savez, il y a personne qui gagne lorsqu'il y a une chicane entre les parents. Les enfants sont pris au centre de tout ça. Donc, faut faire en sorte d'avoir des mesures pour assurer une certaine quiétude pour les enfants.
Simon Jolin Barrette, merci d'avoir été avec nous. Au revoir.
Un grand plaisir, M. Dumont. Bonne soirée à vous.
Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont, de la musique aux oreilles.
Jean-François, on parle de sport. Grosse partie du Canadien hier. Puis tu sais, c'est... Ça faisait comme un peu peur parce qu'on se disait, ouais, ils vont dire, on la joue pour notre entraîneur, mais ils jouent contre l'Avalanche, ils vont se faire, tu sais, ils auraient pu jouer sincèrement pour leur entraîneur, puis quand même pas gagner, mais là, ça a vraiment bien tourné.
Ben, c'est arrivé à Calgary, souviens-toi, ils ont joué pour, ils l'ont dit, ils ont joué pour le fils de Martin, puis pour Martin, puis ils ont perdu 5-1. Fait que ça veut pas dire que parce que tu le fais que ça va fonctionner, mais hier, ça a fonctionné.
Mais je pense que ce que ça me dit, c'est que jouer pour lui en son absence versus la valeur de sa présence, c'est pas la même affaire. Moi, je l'ai compris comme ça quand même, que lui présent derrière le banc, il y a quelque chose de rassurant, quelque chose de fort. Les joueurs aiment jouer pour lui, mais ils aiment qu'il soit là aussi, là, le père de famille derrière la gang de jeunes.
Là. Ben, je pense qu'il y a eu de ça, effectivement. Je pense aussi que la fois à Calgary, il avait été pris de court. Tu sais, oh, Martin est parti la veille, ça avait secoué tout le monde. Alors que là, on s'attendait pas à ce qu'il soit là, puis finalement, il arrive en renfort, il arrive en bonus. On sait aussi, tu sais, OK, on sait que la famille est correcte, Martin est correct, son enfant est correct, fait que probablement que ça a descendu tout le monde. Mais moi, ce que j'ai senti hier, puis j'ai eu bien peur quand McKinnon a marqué avec 40 secondes de jouer.
Ça partait mal. Mais réplique quoi? 9 secondes après, Suzuki ouais. qui réplique, c'était quand même fort, ça.
Moi, j'ai senti que les joueurs hier, ils avaient envie de se prouver. Moi, j'ai senti, par exemple, un Nick Suzuki, là, qui est leader du Canadien, lui, il avait envie de se prouver contre McKinnon et Rantanen hier. Il l'a pris personnellement, dire, moi, je vais montrer que je suis capable de jouer contre ce genre de joueur-là. Moi, j'ai senti ça de la part du Canadien hier. J'ai senti mon tambour faire comme, t'es un peu le primo, arrêtez de capoter avec primo, là. Je vais vous montrer que je suis capable d'être le numéro un de cette équipe-là. J'ai senti
il a été très bon,
prendre
mais
charge.
Il était très bon, mais l'équipe, quand tu dis prendre charge, l'équipe, ils n'ont pas accordé une période avec 22 lancés là, hier. Là. Il y a eu un nombre raisonnable. Pour une équipe puissante comme l'Avalanche, il y a eu un nombre raisonnable de lancés. On a réussi à garder puis des lancers pas si pires. Parce que des fois, le Canadien donne des chances. Je dis, mais n'importe qui de 20 buts, ça n'a pas de bon sens. Tu donnes la rondelle, tu sais, tu donnes des deux contre un, tu donnes la rondelle devant le but. À un moment donné, il va en rentrer. Là. Mais hier, t'as pas eu ça, là.
Ça a été un des meilleurs 60 minutes du Canadien. Tu sais, trois périodes où est-ce qu'on a compétitionné. Peut-être que l'Avalanche. Sont partis un peu, ils nous ont pris un petit peu de haut. Là. À part le premier trio, les trois autres trios, c'était plutôt tranquille. Là, en troisième période, ils ont ouvert la machine, on l'a senti. Heureusement, là, ils ont eu 6 minutes de pénalité dans les dernières 10 minutes, ce qui leur a empêché complètement de faire une remontée. Mais même s'ils avaient réussi à faire 2-2, mettons, puis qu'on s'en va en prolongation, reste que le Canadien s'était tenu debout contre l'Avalanche hier. Puis les commentaires qu'on a entendus envers Martin Saint-Louis, puis tout ça, il y en a des fois qui disent, bon, est-ce qu'il va être là encore longtemps? Parce qu'à un moment donné, il perd. Son vestiaire, il l'a. On a senti que les joueurs l'aiment, qu'il est avec eux autres, qu'il discute beaucoup avec eux autres, que chacun a appris de Martin Saint-Louis, qui a fait de chacun de ces joueurs-là un meilleur joueur. Raphaël Hervé-Pinard, il l'utilise bien. Slavkovski, il l'utilise bien. Caulfield, il a donné des outils. On dirait que tout le monde est reconnaissant de ce que Martin Saint-Louis leur a appris. C'est sûr qu'à un moment donné, ils vont devoir gagner. Là. Mais on a senti qu'il y a une symbiose avec les entraîneurs versus les joueurs.
Slavkovski qui a battu un record. Battu un record d'équipe pour un joueur de moins de 20 ans.
Oui, une saison de 40 points. C'est la première fois que ça se faisait pour un joueur de moins de 20 ans. C'était Mario Tremblay qui avait ce record-là à 39. Puis, tu sais, c'est les 24 premières parties, il y avait 7 points, Slavkovski, là, avant qu'on le jumelle à Suzuki et Caulfield puis qu'on lui donne l'avantage numérique. Puis hier, je l'ai trouvé encore très, très bon. Il voit tout et il va être gros, puis pesant, puis tannant.
Ah non, il est dur à déplacer. Hein? Il est dur quand il veut se mettre dans un coin, prendre la peau, prendre sa place. Il n'est pas facile à déplacer. On s'en allait à New York, M. Lafrenière qui roule à fond de train, là.
Ouais, deux buts hier. Les Rangers vont très bien. La première équipe à 100 points, première équipe classée. Donc, deux buts hier. Donc, ça lui en fait pour l'instant 23, Alexis Lafrenière. C'est sa meilleure saison. Il est en train de s'installer tranquillement dans la Ligue nationale de hockey.
Jean-François, merci beaucoup.
Salut.
Bye-bye. Merci à vous d'avoir été là. On se donne rendez-vous pour une autre demain, 16h. Bonne soirée.